Suite de la première épître de Jean au chapitre 5.
Nous allons lire les cinq premiers versets. Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Ici, Jean revient à la base. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. La naissance nouvelle, naissance de Dieu. Il revient à la base, cette naissance provient de la foi en Jésus venu en chair, mais d'une foi qui est de celle dont ne parle, exclusivement le Nouveau Testament, la foi du cœur, une foi qui est véritablement une force. Dans notre époque moderne, hélas, nous parlons, tout se dissout, tout tend à se dissoudre dans le cœur et dans la bouche des hommes qui ne sont pas consacré à Dieu, n'est-ce pas? Et la foi devient quelque chose comme une adhésion, simplement, à une doctrine. Toute évangélisation qui n'a pas autre chose à proposer qu'une adhésion à une doctrine n'est pas la bonne évangélisation, elle ne procure pas le salut. C'est la foi du cœur, foi qui consiste à manger la chair et boire le sang de Jésus. C'est là que nous trouvons la vraie force de la foi qui sauve. Alors, Jean revient donc à cela. Il emploie là l'expression qui lui est chère, « né de Dieu », très belle expression, plus formelle que « né de nouveau ». Nous employons souvent l'expression « né de nouveau », mais cette dernière expression est employée en dehors de la foi chrétienne. Il y a, je ne veux pas vous dire quoi, mais enfin, dans certaines œuvres ou certaines, disons, catégories d'hommes, dans certaines idéologies même, on emploie volontiers cette expression « né de nouveau », n'est-ce pas? L'homme va naître de nouveau. Alors, « né de Dieu », on ne peut pas l'employer, ça, n'est-ce pas? « Né de Dieu », c'est véritablement l'expression et qui est réservé à la réalité chrétienne. Et puis, cette expression « née de Dieu » marque l'abîme entre les non-croyants et les croyants. Ces derniers ont reçu une vie qui est celle du Christ. Il faudra qu'un jour, peut-être, je ne sais pas s'ils auront le temps, oui, peut-être, au cours, avant la fin de cette retraite, de revoir ce problème de la différenciation entre ceux qui ont la vie et ceux qui ne l'ont pas. Dans l'Église, on tendrait, n'est-ce pas, et cela parce que souvent la foi s'éteint, le formalisme entre, s'installe dans l'Église, et l'on tendrait souvent à laisser s'estomper, s'effacer la différence entre ceux qui ont reçu la vie de Dieu, qui sont nés de Dieu, ça c'est une réalité, n'est-ce pas? Et puis ceux qui ne sont pas nés, sous prétexte d'une espèce de fausse charité, voudrait, n'est-ce pas, ne plus voir de différence entre les uns et les autres, si bien que les églises arrivent à être des sociétés dans laquelle il y a un mélange, l'église multitudiniste, selon l'expression qu'on a souvent employée. Eh bien, pourtant, il est indispensable de savoir qui est né de Dieu et qui ne l'est pas. ce n'est pas pour infliger à ceux qui ne le sont pas une humiliation injustifiée, si vous voulez, n'est-ce pas? Ce n'est pas pour les écraser, ce n'est pas pour les avilir, mais il faut que la réalité se voie. Le Christ l'a très bien situé, cette réalité, n'est-ce pas? Et ça, nous sommes, si nous voulons être fidèles, amenés à la faire également. Dans la seconde partie de ce verset premier, du verset premier, il est dit « Quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. » C'est la phrase, évidemment, paraît un petit peu difficile. D'ailleurs, il faut bien dire que les versets que nous avons lus ne sont pas des plus faciles, loin de là, des plus faciles à comprendre, tellement la concision est grande. Ceci, c'est une reprise du verset 21, du verset 21. Au fond, c'est une reprise du verset 21 du chapitre précédent, chapitre 4. « Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Là, n'est-ce pas, « Quiconque aime celui qui l'a engendré, donc aime Dieu, aime aussi celui qui est né de lui, donc le frère qui est né de lui. » C'est une reprise sous une forme nouvelle. « Celui qui l'a engendré, d'une part, et celui qui est né de Dieu, né de lui, d'autre part. « Celui qui est né de lui, c'est la justification du terme frère. » Le terme frère n'est pas un terme de convention, conventionnel, c'est un terme qui découle d'une réalité. Alors, si on s'appelle frère et sœur, c'est parce qu'il y a une réalité. Autrement, n'est-ce pas, ce serait quelque chose de factice. Eh bien, la justification du terme frère, et là, n'est-ce pas, dans l'expression « celui qui est né de lui ». Si je regarde quelqu'un dans l'Église, n'est-ce pas, un autre membre de l'Église, eh bien, je dois voir en lui quelqu'un qui est né de Dieu, comme moi. Et c'est pour ça qu'il est mon frère. Nous avons le même Père céleste. Et c'est à cause de l'engendrement par Dieu que le croyant aime un autre homme qui a été aussi, tout comme lui, engendré par Dieu. Il est engendré par Dieu, Jean veut souligner cela, n'est-ce pas? Si je suis engendré par Dieu, j'aime quelqu'un qui est aussi comme moi engendré par Dieu. Le croyant et son frère sont donc tous deux engendrés par le Père Céleste, et pourquoi? Ils ne peuvent que s'aimer. Il ne peut pas être question d'autre chose entre eux que de l'amour, n'est-ce pas? L'amour du Père. Tous deux sont unis à Jésus-Christ et à Dieu par le même lien, et tous deux participent à la vie nouvelle en Jésus-Christ. C'est là une constatation simple, n'est-ce pas? Mais c'est quelque chose qui demande à être médité. Verset 2. « Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. » Ça ne paraît pas, mais quand on suit l'Épître dans un même travail, n'est-ce pas, on s'aperçoit peut-être mieux des difficultés. En tout cas, là, il y en a une. Il y a une difficulté qui est assez grande, et personnellement, elle m'a donné pas mal de fil à retordre. C'est pas facile, n'est-ce pas, d'essayer d'expliquer un verset comme celui-là. D'abord, nous devons constater ici que Jean renverse l'ordre des facteurs. Car précédemment, il avait dit que l'amour envers Dieu entraînait l'amour envers les frères. Et en aimant les frères, nous montrons que nous aimons Dieu. Là, il nous dit que si nous aimons Dieu, par là, nous avons la preuve que nous aimons les enfants de Dieu, que nous aimons par conséquent les frères. Alors, voyez, l'ordre des facteurs est renversé. Précédemment, il nous a montré que si nous nous aimons les uns les autres, eh bien, et le Seigneur l'avait dit aussi, n'est-ce pas, par là nous montrons que nous sommes les disciples de Christ, par là nous montrons que nous aimons Dieu. Mais là, voici que Jean nous dit, nous connaissons, nous nous rendons compte, si vous voulez, que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Voilà, n'est-ce pas, la chose renversée. Autrement dit, aimer Dieu, ça c'est la chose qui est dans notre cœur, c'est l'invisible. L'amour des frères, lui, il est plus concret, il est plus visible, il se traduit tout de même d'une façon concrète, par des contacts, par des paroles, par des attitudes, n'est-ce pas, sont celles de l'amour fraternel. Alors, en somme, là, il va nous dire, c'est l'invisible qui va être la preuve du visible. C'est trapu, n'est-ce pas? Et comme c'est la parole de Dieu, et que, je vous dis, la grande difficulté de la comprendre et de l'expliquer en des choses comme celle-ci, c'est la concision. Nous allons nous tirer d'affaire, bien entendu, n'est-ce pas? Mais vous voyez qu'il y a là une difficulté parce que brusquement, Jean renverse les choses. Nous connaissons, ça veut dire nous nous rendons compte que, n'est-ce pas, nous aimons les enfants de Dieu, nous aimons les autres frères, lorsque nous aimons Dieu. Et que nous pratiquons ses commandements. En somme, Jean établit maintenant l'amour pour les frères d'après l'amour que nous avons pour Dieu. L'amour pour les frères, il l'établit sur un autre test, l'amour que nous avons pour Dieu. Mais cet amour que nous avons pour Dieu, il faut que nous le connaissions. Si nous le connaissons, alors nous allons connaître que nous aimons les frères. Ce que Jean veut nous dire, c'est que notre vie intérieure, notre vie intérieure de communion, notre amour pour le Père, notre vie intérieure de communion, nous dira si notre amour pour les frères est réel. Si nous avons de l'amour pour Dieu, si nous avons une vie intérieure de communion, n'est-ce pas, un amour pour Dieu, alors là, par cet amour-là, dont nous devons, n'est-ce pas, nous rendre compte, eh bien, nous saurons que nous aimons les frères. Vous voyez? Alors, il résulte de cela deux choses, et c'est ainsi que je vais expliquer ce verset. La première, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. C'est que Jean, ici, regarde l'amour de Dieu comme l'amour obéissance. L'amour engagement, plein engagement avec Dieu. La vie est engagée avec Dieu. Il parle de l'amour, en somme, sanctification, l'amour qui pratique les commandements. C'est un amour qui est engagé dans la sanctification, qui est une marche selon l'esprit, pour prendre une expression de Paul. Voilà quel est l'amour dont il parle ici dans ce verset 2. Il parle donc de l'amour obéissant. Je vais l'appeler d'une façon plus brève ainsi, l'amour obéissance au commandement de Dieu, à la parole de Dieu. L'amour obéissance. Voilà, il parle de celui-là, pas d'un autre. Il s'agit donc de l'amour envers Dieu qui se manifeste par une vie chrétienne effective. Ah, bon, alors, c'est en somme notre vie chrétienne effective qui va être le test de notre amour pour les frères. Vous comprenez, n'est-ce pas? L'amour dont il parle, c'est un amour qui a réalisé ce que Dieu attend, n'est-ce pas, ce que Dieu veut, la volonté de Dieu. Donc, par conséquent, c'est un amour qui nous place dans une vie chrétienne réelle, effective, une vie de sanctification, n'est-ce pas. Alors, c'est par cette vie, si nous nous rendons compte que nous avons cette vie effective, n'est-ce pas, cette vie chrétienne effective, alors nous savons que nous aimons les frères. Nous allons en déduire que nous aimons les frères. N'allons pas regarder maintenant avec ce verset, non pas regarder ce que nous faisons aux frères, n'est-ce pas, nous allons regarder quelle est notre vie. Et si vraiment, n'est-ce pas, nous nous tenons jour par jour en veillant bien sur notre voie, n'est-ce pas, par la piété qui convient, si nous nous tenons dans une vie chrétienne effective, alors nous allons en déduire, nous aimons les frères. Mais ce n'est pas fini. Si mon amour pour Dieu, donc, se traduit par une vie soumise à la volonté de Dieu. Hein, mon amour, c'est ma soumission. C'est ça, mon amour. C'est ma soumission à la volonté de Dieu. Alors, si j'en suis conscient, si je suis conscient que je suis soumis à la volonté de Dieu, donc, Alors, je sais que mon amour pour les frères est réel. Parce que mon amour pour les frères, j'aurais tort d'essayer de le voir, de le jauger, par des petites observations, ce que j'ai fait pour un frère, ce que je lui ai dit, le bien que j'ai pu lui procurer. J'aurais tort. Jean me dit, n'est-ce pas, si ta vie est soumise à la volonté de Dieu, tu en déduis que tu aimes tes frères. Ton amour pour les frères est réel. Il est réel. Il est authentique. Il sera un amour selon Dieu, un amour de la nature de Dieu, parce que tu ne pourras pas faire autrement. Et c'est là que nous voyons, ça rejoint ce que Jean a dit avant. Bien qu'il ait inversé l'ordre des facteurs, ça rejoint ce qu'il a dit avant. Mais c'est assez subtil, vous savez, n'est-ce pas? Et quand on lit, n'est-ce pas, son évangile comme ça, 3-4 chapitres par jour, n'est-ce pas, je ne sais pas comment on peut faire pour pénétrer vraiment la richesse qu'il y a dans ces textes-là. Deuxièmement, j'ai dit qu'il y avait deux choses. Alors donc, n'est-ce pas, nous voyons, nous allons dire que notre amour pour les frères est réel si notre vie est une vie de soumission à la volonté de Dieu. Bon, deuxième chose, l'amour envers les frères ne sera pas une chose donc qui proviendra de l'homme. Ce n'est pas un amour qui naîtra des sentiments propres à l'homme. C'est un amour qui devra être fondé sur l'amour envers Dieu. Il est fondé uniquement sur l'amour envers Dieu. Il n'y a que l'amour envers Dieu qui fonde véritablement l'amour envers les frères. Et l'amour envers Dieu, bien sûr, n'est-ce pas, qui est un amour, comme j'ai dit, un amour obéissance, un amour soumission à la volonté de Dieu, un amour qui m'a fait entrer dans la pratique de la justice. C'est une expression de Jean, ça, n'est-ce pas? La pratique de la justice. Alors, je suis dans la pratique de la justice, n'est-ce pas? J'aime les frères, mais, n'est-ce pas, dans mon amour sera authentique et réel, parce que il sera dépouillé même, dépouillé de tout ce qui vient de l'homme, de tout cet appareil sensible dont l'homme est capable, et qui n'est pas l'amour authentique et vrai fraternel, l'amour fraternel authentique et vrai. Si bien que cet amour fraternel ne s'exerce pas au niveau de ce que j'appellerais les choses vaines, les choses de la terre, les futilités de l'existence. Cet amour fraternel ne s'exerce pas à ce niveau-là. Ce n'est pas ça, l'amour fraternel. Je ne dis pas que si, par exemple, je fais quelque chose en commun avec un frère, c'est nécessairement mal, n'est-ce pas? Je ne dis pas ça. Mais je dis, je ne peux pas appeler ça l'amour fraternel. Parce que ça, je pourrais le faire avec un païen aussi. Je pourrais très bien, n'est-ce pas, m'entendre avec un païen pour aller faire un travail quelconque, une expédition quelconque, n'est-ce pas? C'est pas ça, l'amour fraternel. Voilà ce que Jean, n'est-ce pas, veut nous dire, qui se déduit de son verset ici. C'est pas ça qu'il faut appeler l'amour fraternel. Nous avons vite fait, n'est-ce pas, de faire dévier les notions. Il s'agit de notions purement spirituelles ici. Cet amour fraternel, l'amour envers mes frères, c'est aussi une œuvre de justice. Alors si je me tiens, moi, dans la pratique de la justice, je fais des œuvres justes, les œuvres justes des saints, je les fais. Et dans les œuvres justes des saints, il y a l'amour fraternel. Il est là, il est placé là, il est à ce niveau-là. Il y a l'amour fraternel dans mes œuvres de justice, n'est-ce pas? L'amour fraternel va donc être cet amour qui recherche le bien des frères de la même manière que Dieu cherche le bien de ses enfants. Voyez-vous? De la même manière que Dieu cherche le bien de ses enfants. C'est-à-dire en les aidant à vivre de la vie nouvelle. L'amour fraternel ne consistera donc pas à se dépenser pour les frères en actions inutiles, même en une foule de petits services qu'on peut leur rendre, n'est-ce pas, en invitation, par exemple, ne consistera pas à satisfaire tous les désirs des autres. Enfin, mes frères peuvent avoir des désirs qui me mobiliseraient inutilement, n'est-ce pas? Et que je n'ai pas, c'est pas ça, c'est pas l'amour fraternel qui va me dire, n'est-ce pas? Il faut que tu fasses leur mille et une volontés. C'est pas ça du tout. C'est pas ça l'amour fraternel. L'amour fraternel va œuvrer pour leur croissance et pour leur édification, ce que le reste du Nouveau Testament nous montre, n'est-ce pas? Que nous ayons entre nous des paroles qui nous édifient les uns les autres. C'est les paroles d'édification. Et si moi-même, je suis soumis à la volonté de Dieu, mais je suis pour mes frères un exemple. Je mets le jeu impersonnel, n'est-ce pas? Bon, si je suis soumis, n'est-ce pas, à la volonté de Dieu, n'est-ce pas, si vraiment je pratique la justice, mais je suis pour mes frères un exemple, je suis un témoignage vivant, j'ai l'amour fraternel nécessairement, n'est-ce pas? Voyez-vous? Et si je vis mal, et si je les choque, et si j'offense leur foi, si j'offense, par exemple, comme on le voit dans les épîtres de Paul, la foi du jeune frère, n'est-ce pas, qui vient de naître de Dieu, n'est-ce pas, qui est encore sensible à toutes sortes de choses, je risque ça de le faire chuter, n'est-ce pas, je risque d'être pour lui un achoppement, une cause d'achoppement, n'est-ce pas, eh bien, à ce moment-là, je n'aime pas le frère, même si je lui fais toutes sortes de grâces et de gentillesses. Je n'aime pas le frère. En résumé, pour ce verset, n'est-ce pas, verset 2, je vais résumer parce qu'il est excessivement important et il n'est pas facile, bien sûr, n'est-ce pas, à comprendre d'emblée, du premier coup. Si je me place dans l'obéissance à Dieu par la force de l'amour, si je suis dans l'obéissance à Dieu, c'est par la puissance de l'amour, agissant en moi, l'amour de Dieu. Alors, si je me place dans l'obéissance à Dieu, j'aurai la preuve que j'aime mes frères. Je leur serai utile. Ils trouveront en ma vie un exemple, une stimulation à aimer Dieu eux aussi dans l'obéissance. Donc, je vais contribuer à leur salut. Je vais les aider à leur salut. Si je fais tout le contraire, je les fais achoper sur la voie du salut. Chers amis, on l'a dit de toutes les manières, notre vie, oh, que de responsabilité dans nos mouvements d'humeur, dans notre manière d'être, de parler avec les autres, tout ça. Si notre vie manifeste l'amour pour Dieu, la soumission à la volonté de Dieu, elle est une stimulation pour les autres. Jésus était une stimulation, de Jésus venait une stimulation. Un jour, les apôtres l'ont entendu prier un peu. En général, ils priaient à l'écart. L'ont vu prier, l'ont entendu un peu prier. Ah, apprends-nous, Seigneur, à prier. Pourtant, ils étaient des Juifs, ils avaient prié, ils savaient ce que c'était que la prière. Ben, apprends-nous à prier. Ça, je voulais dire, apprends-nous à prier comme tu pries, toi. Et alors, ça a été le Notre Père. Le verset 2, donc, nous enjoint de contrôler l'origine de nos relations fraternelles. Ces relations seront celles du véritable amour fraternel de source divine si notre propre vie est celle de l'amour appliqué à la justice, à la pratique de la justice. Mais si nos relations fraternelles sont essentiellement humaines, faites de sympathie, faites du plaisir de se rencontrer, de manger ensemble, n'est-ce pas? Elles ne sont pas l'amour fraternel authentique. Je ne dis pas pour autant qu'il n'est peut-être pas bon que nous mangions ensemble, n'est-ce pas? C'est pas ce que je veux dire. Mais si ce n'est fait que de ça, si c'est là que nous disons « j'aime mon frère », nous nous trompons. Et nous nous tromperons lourdement et terriblement si, en même temps, nous ne sommes pas, nous, consacrés à Dieu dans une soumission dans la pratique de la justice. Mais Jean nous dit, voyons, quel est ton amour pour Dieu d'abord? Regarde ton amour pour Dieu. Tu pratiques la justice, tu es soumis à la volonté de Dieu. Bon, eh bien, tu peux en inférer que tu aimes tes frères. Et alors, à ce moment-là, tu peux regarder, en effet, tu seras utile à tes frères, tu vas être un exemple à tes frères. Mes chers amis, Je vais entrer un petit peu là, n'est-ce pas, dans la pratique, et vous dire ceci, il y a des aveux nécessaires, n'est-ce pas? C'est que je vais, évidemment, dans beaucoup de familles. D'abord, quand je vais dans des assemblées, il arrive souvent, n'est-ce pas, que je doive répondre à des invitations de frères et de sœurs. Pas c'est le pasteur qui a arrangé ça. Bon, alors on va. C'est pas mauvais, noter, parce qu'on fait connaissance de frères et de sœurs, et puis on y va. Bien sûr, si on va déjeuner chez eux, par exemple, n'est-ce pas, déjeuner ou dîner, eh bien, c'est pour se retrouver entre frères et sœurs. Et c'est bien entendu, n'est-ce pas, pour parler de choses qui édifient. Eh bien, il y a des maisons où l'on ne peut pas parler de choses qui édifient, n'est-ce pas? Des maisons où la conversation tombe, se traîne sur toutes sortes de choses terrestres, vaines, inutiles. Puis, les relations fraternelles sont cela. Si on se voit ensemble pour s'amuser, pour rire, pour faire un bon festin à l'occasion, en même temps, n'est-ce pas? Mais que l'on soit là, n'est-ce pas, en quelque sorte en marge de la vie de sanctification, de la vie chrétienne. Eh bien, chers amis, nous ne pouvons pas dire que nous pratiquons l'amour fraternel entre nous. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Nous pratiquons des relations humaines, agréables. Nous pratiquons, il y a des chrétiens qui vous diront qu'ils vont chez certains parents ou chez certains inconvertis et qu'ils les aiment beaucoup, qu'ils se trouvent très bien, ils se trouvent à l'aise chez eux, on me l'a dit quelquefois, cela, n'est-ce pas? Ils se trouvent très bien. Moi, je n'y vais pas. Mais enfin, ça c'est une autre affaire, n'est-ce pas? Mais enfin, n'est-ce pas, disons que cela... Nous ne pouvons pas appeler ça amour fraternel. Si nous sommes réunis pour un repas autour d'une table, qui d'ailleurs sera servie modérément, n'est-ce pas? Pas d'excès de table, ça c'est écrit, c'est un commandement aussi ça, n'est-ce pas? Une table qui pourra contenir de bonnes choses, mais rien d'excessif, n'est-ce pas? On n'est pas là pour faire de grosses mangeailles. Eh bien, si l'on est ensemble autour d'une table, mais on va honorer le Seigneur, on va louer le Seigneur, on va s'édifier mutuellement, n'est-ce pas? On va au besoin même, peut-être, n'est-ce pas, se dire l'un à l'autre ses difficultés. Ça, c'est encore possible. Mais si, n'est-ce pas, il s'agit de chrétiens qui, les uns et les autres, vivent dans la soumission à la volonté de Dieu, ils vont vraiment, entre eux, connaître l'amour fraternel. L'amour fraternel les unira vraiment. Et c'est, ils seront ensemble de par cet amour fraternel. Et qu'il n'y ait donc pas entre frères d'autres mobiles que l'amour venant de Dieu, aucun, n'est-ce pas, membre de l'Église ne doit se faire le maître, par exemple, ou l'esclave de son frère pour les choses terrestres. Ce n'est pas ça, l'amour fraternel. Seule la foi en Jésus-Christ, seule la vie abandonnée à Dieu, font de mon amour pour le frère une relation d'esprit juste et bonne. Une relation d'esprit juste et bonne, voilà ce qu'est l'amour fraternel. Toute autre relation ou affection n'est que la contrefaçon de l'amour fraternel. Là, c'est une chose qu'il faut bien savoir. L'amour fraternel se situe dans un contexte essentiellement spirituel, surnaturel. Et verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Je ne vais pas insister beaucoup sur ce verset. Les commandements de Dieu sont dictés par son amour. Nous avons déjà vu dans l'étude de cette épître que par commandement il fallait entendre la parole annoncée, n'est-ce pas? Pas une suite de préceptes et de règles, mais il fallait entendre, n'est-ce pas, la volonté de Dieu manifestée par l'ensemble biblique, par l'ensemble de l'Évangile, n'est-ce pas? L'Évangile nous montre, l'Évangile n'a pas, ni même la Bible dans son entier, n'a pas la prétention de régler toutes les petites choses de la vie, n'est-ce pas? Tout ce qu'il faut faire ou ne pas faire, ce qu'on peut faire ceci, ce qu'on peut faire cela. C'est pas ça les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu, c'est ce qui est demandé par Dieu, c'est les demandes de Dieu, ce sont les sollicitations de Dieu en vue de réaliser la vie nouvelle. Un amour qui n'obéirait pas aux commandements de Dieu serait illusoire, il serait inexistant, comme la foi sans les œuvres, n'est-ce pas? Exactement pareil. C'est la nature de l'amour d'obéir. La nature de l'amour a cela, n'est-ce pas, contient cela, l'obéissance. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Textuellement, c'est « ne sont pas lourds ». Ne sont pas lourds. Et ça nous fait penser à cette parole de Jésus qui disait que son joug était léger. C'est pas léger. Par contre, il va dire aux pharisiens qu'ils sont en train de lier de lourds fardeaux sur le dos des pauvres gens, n'est-ce pas? Voilà comment ils font. Et dans l'Église, efforçons-nous de ne pas faire ainsi, de ne pas placer sur les autres des fardeaux que nous n'avons pas nous-mêmes pu porter. Comme faisaient des pharisiens. Le pharisaïsme n'est pas mort, vous savez. Alors, il faut y prendre garde. Pas de commandement, pas de légalisme dans l'Église. L'incitation à la foi, l'édification en vue d'un rapprochement toujours plus étroit avec le Seigneur, une vie dans la communion, et cela réalisera la loi de Dieu. Les commandements ne sont pas lourds, par conséquent, le joug du Christ est léger, parce que si l'on vit dans la communion, nous allons voir, n'est-ce pas, c'est Christ lui-même qui apporte sa victoire. Versets 4 et 5. « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ?» Triomphe du monde, c'est-à-dire triomphe de cette puissance des ténèbres. Ici, le monde, n'est-ce pas, il faut le regarder comme le réceptacle des ténèbres. C'est le monde, c'est la société, j'en ai parlé du monde, n'est-ce pas, je ne veux pas y revenir, c'est la société des hommes sans Dieu qui a un statut juridique. Ce statut juridique, sa constitution, si vous voulez, à cette société des hommes sans Dieu, eh bien, fait de Satan le prince, le roi, le régnant, le gouvernant. C'est lui qui gouverne, et il gouverne d'après ses principes à lui, n'est-ce pas? Eh bien, pour triompher des principes du mal, triompher des ténèbres, il faut être né de Dieu. Mais tout ce qui est vraiment né de Dieu possède le triomphe, la victoire, la suprématie, n'est-ce pas, peut dominer sans être entraîné la puissance des ténèbres. Notre foi, ici, n'est-ce pas, dont il est question, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et notre foi est destinée à quoi? À établir un lien entre nous et le Seigneur et le Sauveur. Lien qui nous met en possession des acquis du Christ au cours de son ministère terrestre. Au cours de son ministère terrestre, le Seigneur a fait une œuvre, il a réalisé un acquis, il a dit sur la croix, tout est accompli. Eh bien, quand il vient, quand nous sommes dans un lien spirituellement organique, je dis deux mots qui semblent s'exclure, mais pourtant, il y a tout de même, n'est-ce pas, de la puissance, il y a beaucoup de puissance dans le spirituel. Lorsque nous avons un lien spirituel avec le Christ, nous avons du Christ pour nous-mêmes, pour notre propre expérience, nous avons sa victoire, nous avons son acquis. La foi, donc, c'est ce qui relie, après nous avoir rapprochés du Christ, elle nous relie au Christ, et c'est elle qui nous procure la victoire. la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, est le Fils de Dieu, a triomphé du monde, nous dit le verset 5. Christ est venu en chair. C'est-à-dire que, pour reprendre une expression de l'Ancien Testament, il est devenu chair de notre chair et os de nos os, une chair semblable à celle du péché. Il est devenu cela. Il a pris donc la lutte de la chair, de l'humanité, il a pris cette lutte à son compte, en opposant l'obéissance absolue, c'est-à-dire la sainteté, si vous voulez, aux assauts du malin, et en mourant pour engloutir non seulement le péché, mais la condamnation que valait le péché, et en ressuscitant pour qu'il y ait un échappement à la mort, bien sûr, vers une vie nouvelle. Il a infligé, par conséquent, l'échec à la puissance du mal, et en triomphant lui-même, il a obtenu une domination sur cette puissance du mal. Il a obtenu une domination en triomphant lui-même. Il y a un principe, n'est-ce pas? On est soumis à ce qui a triomphé de soi. Eh bien, le diable, la puissance du diable est soumise à Christ. Et c'est pour ça que Christ est déjà condamné, parce que Christ a triomphé de cette puissance. Il a triomphé de la puissance, il a triomphé... Et si bien que le diable y est soumis, c'est ce qui fait que dans les épîtres, n'est-ce pas, on va nous dire, mais si vous prenez les armes de Dieu... Ben, vous allez résister au diable facilement, vous allez lui résister, il va s'en aller. Vous avez avec vous, n'est-ce pas, le principe actif d'un triomphe, d'une victoire sur lui, d'un triompher sur lui, n'est-ce pas? C'est plus lui qui triomphe sur vous. Quand on n'est pas converti, n'est-ce pas, le diable utilise son triomphe sur l'homme. Il a obtenu, n'est-ce pas, soumission de l'homme, et bien entendu, l'homme s'est soumis à lui, il a triomphé de l'homme. Mais là, Christ a triomphé de sa puissance et de lui-même. Il a donc obtenu une domination. Et notre foi nous unit à Christ. Elle nous unit donc à toute son œuvre. Ben, nous unit pas à un Christ qui viendrait séparé de son œuvre. Mais non, si Christ est en nous, Christ est là avec son œuvre, avec son acquis. Par conséquent... notre foi qui nous unit à Christ, nous unit à toute son œuvre, elle nous unit à la vie triomphante, à sa victoire. J'ai rappelé hier, j'ai vaincu le monde, prenez courage, j'ai vaincu le monde, c'est-à-dire la puissance qui est dans le monde. Entre cette victoire de Christ et nous, il y a une solidarité et qui existe du fait de la communion. Vous voyez comme la communion est au centre de la vie chrétienne et de sa réussite et de son succès. Enfin, il y a donc, n'est-ce pas, une solidarité entre la victoire du Christ et nous. Une solidarité par le lien que nous avons avec Christ. La victoire du Christ s'implante en nous par la présence même du Christ. Or, ce triomphe est la condition de la vie nouvelle. Il ne peut pas y avoir de vie nouvelle, ici il est question d'être né de Dieu, n'est-ce pas, tout celui qui est né de Dieu triomphe du monde, il ne peut pas y avoir de vie nouvelle sans ce triomphe. On n'est pas dans la vie nouvelle si l'on n'a pas ce triomphe. La grâce donc est donnée pour un triomphe assuré d'avance. Et non pas un triomphe que nous aurions, nous, chacun, pour notre compte, à refaire, à réobtenir. Nous ne pourrions pas, chers amis. Nous en serions incapables. Enfin, alors, ce serait, Dieu nous demanderait quelque chose. Et nous le voyons bien quand nous voulons nous-mêmes lutter contre ce qui est négatif dans notre vie, n'est-ce pas? Et ce qui cause l'offense, la transgression, le péché, n'est-ce pas? Eh bien, quand nous voulons lutter par nous-mêmes, voyons bien que nous sommes incapables. Par conséquent, il nous faut, n'est-ce pas, un triomphe assuré, nous l'avons, la grâce nous le procure, un triomphe assuré et qui n'est pas pénible, qui n'est pas lourd, qui est aisé par conséquent, qui est aisé. Aussi, ne nous fions pas à notre raison, ne nous fions pas à notre sentiment, ne vivons pas une religion faite de sentiments, n'est-ce pas, et de rites. Ne nous abandonnons-nous à Jésus par une foi du cœur, et il nous sanctifiera, lui, de son souffle, par sa présence en nous, il nous sanctifiera du dedans, et le dehors manifestera le triomphe sur le monde, sur la puissance du monde, et manifestera la sanctification. Amen.